bien, merci vraiment tous les deux pour vos deux interventions qui étaient pleines d'informations à la fois intéressantes et parfois amusantes, parce que c'est vrai que le sport est populaire, et donc les exemples qui sont évoqués par beaucoup d'entre nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question dans la salle? Julien, peut-être que vas-y.
Ma question est un peu naïve, mais vous avez dit au début de votre présentation que parmi les vertus de l'arbitre, c'est son caractère indépendant. Or, vers la fin de votre présentation, vous avez fort mis en exergue qu'ils étaient fort influencés par ce que leur superviseur leur disait notamment. Et donc, précisément, est-ce que le rapport de leur superviseur n'est pas critiqué par rapport au caractère indépendant qu'on a?
Tous les officiels se disent indépendants, impartials, n'étant sous. Enfin, vous parliez tout à l'heure, j'ai pris quelques notes, un ordre juridique spécifique, les fédérations, ils doivent être indépendants sous aucune pression. Ceci étant, ils adaptent leur arbitrage en fonction de la supervision. On en a parlé tout à l'heure, les arbitres en sont là aujourd'hui. Il faut qu'ils soient bien vus par leurs superviseurs. Donc ils ne sont pas totalement indépendants. Et, ils en sont conscients, hein, ils en sont conscients. Mais leur principale préoccupation, c'est de ne pas évoluer dans la carrière. Et du coup, ils se focalisent là-dessus. Par exemple, pour l'entraînement, moi je reste persuadé qu'il faut s'entraîner en situation. Donc moi je leur ai proposé de mettre des caméras sur le front, d'avoir des angles de vue sur le terrain et de s'entraîner par rapport à ce que peut voir un arbitre. Et tous s'opposent à ça. Ils préfèrent s'entraîner avec des points de vue du public. Tout simplement parce que c'est le point de vue avec lequel ils vont être évalués par les superviseurs. Et donc j'étais sûr de mon coup, mais alors avec cet argumentaire-là, ils n'ont pas tout à fait tort. Évidemment. Donc ils ne sont pas totalement indépendants puisque il y a toujours cette problématique d'évaluation et ainsi de suite. Et tous les arbitres ont une appréhension de se prendre de bec avec un superviseur ou avec quelqu'un de la fédération parce qu'ils savent tout de suite que ça leur coûtera cher. Il y a un certain nombre de cas comme ça qui se sont déroulés où des arbitres se sont fait sanctionner pour des raisons autres que sportives.
Et je voudrais compléter ça. Est-ce que vous pensez que l'influence serait différente selon qu'ils seraient évalués simplement un an après les faits, et donc qu'on les évaluerait par rapport à un certain échantillon, ou bien s'ils sont évalués immédiatement après les faits?
En fait, dans la plupart des pratiques aujourd'hui, le terme d'évaluation, de notation et ainsi de suite est tabou. C'est pas utilisé. Ils sont supervisés. C'est-à-dire qu'a posteriori, on fait une analyse de la rencontre sportive. Alors, que ce soit en football, en rugby, dans les sports collectifs ou sur les sports individuels, je parle du haut niveau évidemment. À plus bas niveau, ils sont supervisés une ou deux fois ou trois fois au cours de l'année. Et donc, ils discutent, ils échangent, et c'est l'avis du superviseur qui fait loi, quoi. Donc, le superviseur dit là, tu as raison, donc c'est la vérité. Ça pose un problème dans toutes les fédérations parce que les superviseurs sont des anciens arbitres. Soit parce qu'ils ont dépassé la limite d'âge, soit parce qu'ils ont fait une ou deux saisons de trop. C'est quoi une saison de trop? C'est un nombre important de décisions qui ont été contestées et qui sont contestables. En gros, faut mieux finir ta carrière maintenant, mais on te propose un poste de superviseur. Donc ça pose un problème, j'en ai discuté avec beaucoup d'arbitres. Être supervisé et observé par quelqu'un qui a été considéré comme un très mauvais arbitre sur la fin de sa carrière, ça, c'est compliqué. Et je pense que c'est pas le même métier non plus. Donc c'est un problème. C'est un problème de communication, c'est un problème de formation. Comment être formé par des gens qui... pour qui cette mission-là était plus remplie correctement à la fin de carrière. C'est vraiment problématique.
Des questions avant que nous passions à la question des étudiants,
vous voudriez
poser.
Allez-y,
j'aime.
Une question, c'est par rapport à la confusion qui existerait entre l'ordre juridique sportif et l'ordre juridique. étatique. Donc récemment, il y a eu un problème. Je pense qu'il y a, un joueur, Brandao, qui a agressé un autre joueur, mais c'était dans le vestiaire. Et je crois que les cas. Ouais, c'est ça, ils sont allés devant un juge étatique. Les joueurs étaient sanctionnés. Je pense qu'il y a une peine de prison, je pense, quelque chose comme ça. La question est de savoir si. Allez, si, comment dire, si l'altercation s'était passée sur les, allez, sur les terrains, si, je voulais savoir si la situation serait la même au cas où l'altération s'est passée sur les terrains.
Alors, on sort un petit peu de mon champ de compétences, mais je pense que ça va être composé ensuite. Hein. Mais il y a ce qui se passe sur le terrain pendant le jeu, et ça, c'est clairement du ressort de la fédération sportive considérée. Et donc, dans un certain nombre de cas, ça se passe toujours comme ça. Dans le cas de Brandao, ça s'est passé en dehors du terrain, dans le tunnel qui va jusqu'au vestiaire. Bon, il y a eu des preuves, hein, il a mis un coup de tête à un joueur. Et là, il ne s'est pas adressé, enfin, son avocat, enfin, l'avocat de l'agressé, ne s'est pas, n'a pas déposé plainte, en tout cas, ou, enfin, fait la moindre demande au niveau sportif, au niveau de la fédération, mais au niveau étatique. Je vais apprendre plein de choses aujourd'hui. Au niveau étatique. Par contre, celui qui a juste fait ça et juste fait ça, il aurait pu décider de porter plainte au niveau étatique en disant l'arbitre est incompétent, il a fait n'importe quoi. Nicolas Raville a arbitré deux matchs après, il a arbitré le week-end dernier, il est très bien noté pour l'instant par la fédération. Et donc du coup, j'ai tendance à dire, mais après ça a vérifié, que ce qui se passe sur le terrain, c'est du point de vue sportif, ce qui se passe en dehors, c'est différent. Après, quand c'est dans le cadre sportif, Zidane, Materazzi, ça n'a pas été plus loin que le point de vue sportif. Il a pris une suspension d'un certain nombre de matchs au niveau international. En même temps, c'était son dernier match, donc il s'en moquait, mais ça n'est resté que du point de vue sportif. Et pourtant, on a exactement... Enfin, il a visé plus bas, Zidane, mais ça a donné à peu près le même résultat. Donc, il me semble que ce qui reste sur le terrain doit rester sur le terrain sportif et en dehors...
Le vestiaire ne pourrait pas être considéré comme le terrain.
Le vestiaire est dans l'enceinte sportive mais semble plus être dans la rencontre sportive.
Ouais. Mais en fait, oui, globalement, évidemment, ben, si on, il y a un exemple plus simple, si jamais ensuite, dans une soirée plus tard, les deux joueurs se battent, évidemment, ça ne va pas être du tout dans le monde sportif. Là, on est dans le vestiaire, c'est moins dans le monde sportif que c'est sur le terrain. Mais je pense quand même que même pour tout ce qui est les incidents, mais je parle même des spectateurs, etc., les fédérations sportives se reconnaissent compétentes pour sanctionner les clubs, etc., etc. Mais ce qu'il faut juste comprendre, c'est qu'il y a, une superposition qui ne va pas exclure qu'on recourt à l'un ou à l'autre, en tout cas quand ça se passe dans le milieu sportif. Puisque ben, sur le terrain, on peut éventuellement, comme l'a fait l'arbitre, bon, je ne crois pas que ça va aboutir, mais comme le font parfois des clubs pour des tacles ou des fautes, on peut aussi aller en dehors du cercle, enfin de l'ordre sportif pour essayer d'obtenir gain de cause. Mais en général, ça gêne les fédérations parce qu'ils estiment que si c'est comme ça, ça va nuire en fait au sport parce que, en réalité, ben, ils estiment qu'une fois qu'on est dans le sport, il y a une espèce de règle implicite qu'on ne peut pas en sortir et qu'on doit accepter les sanctions telles qu'elles existent. Et dès lors, ben, il y a eu en Belgique, par exemple, le cas d'un joueur du Standard de Liège, Carcella, qui avait été victime d'un tacle. Et puis ensuite, le Standard de Liège, le club, a porté plainte au civil. Et la fédération a dit « ne le faites pas, si vous le faites, on va vous exclure de la Ligue, etc. » Et puis finalement, ils ont joué sur le rapport de force, puis ils ont retiré leur plainte au civil, parce que, bon, ben, ils ont estimé que c'était dans leur intérêt. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une superposition, donc on peut très bien jouer sur l'un ou sur l'autre. Évidemment, si on sort, on peut décider de sortir complètement aussi de l'ordre juridique en question, en estimant que même si on est en quelque sorte un paria, eh bien tant pis, on préfère, pour des raisons évidentes, sortir. Parce qu'on estime que l'enjeu en vaut la peine, comme ben, par exemple le cas de l'affaire Bosman, où là, bon, même si sa carrière était plus devant lui, il est sorti complètement du monde sportif pour remettre en cause toutes les règles de la fédération, ce qui a abouti finalement à la fédération de football à devoir changer toutes les règles sur les transferts. Donc c'est chaque fois un rapport de force. Théoriquement, on peut aller devant l'un ou l'autre. Et simplement, le monde sportif ne va pas aimer qu'on aille... C'est comme dans une famille. Si vous êtes dans une famille et que vous vous faites frapper par quelqu'un de votre famille, ben, normalement, ça va se régler en famille. Hein, on lave son linge en famille. Mais on peut aussi aller devant l'ordre juridique étatique qui va éventuellement vous donner gain de cause. C'est la même chose pour le sport.
Par rapport à ça, j'ai encore une question subsidiaire, mais c'est... je prends les cas de Brandao, il a été sanctionné 2 fois, en général. Ça pose pas de problème au niveau du principe de...
Mais non, parce que là, c'est, selon l'ordre juridique sportif, il a une sanction sportive, ouais, qui peut être une suspension de match, etc. Selon l'ordre juridique étatique, il pourrait avoir une sanction pour les dommages, etc. Donc, en tant que tel, ça va pas... Il n'y a pas de double sanction parce que c'est deux infractions entre guillemets différentes. Quand même.
Mais c'est pas tout.
Non, parce que c'est pas une idée, c'est ça.
Mais c'est comme disciplinaire la première.
Oui, mais donc la suspension, par exemple, le juge de l'État va pas nécessairement prendre en compte la suspension, donc il va prendre en compte les règles, le dommage. Donc,
il y a comme bis, mais il n'y a pas une idée.
C'est ça, oui, si vous voulez. C'est pas la même chose qu'on juge.
Mais c'est souvent le cas. Hein. Les sportifs considèrent qu'il y a une double peine quand il y a, l'État a pris un jugement. Généralement, ça peut être le club ou le joueur, va se faire sanctionner juste après par les fédérations qui attendent souvent que le jugement soit fait au niveau de l'État et seulement après il y a une sanction. Donc c'est vrai que cette double sanction, enfin en tout cas quand on est sanctionné, on a l'impression de prendre une double peine.
Mais je ne crois pas qu'ils vont devant la Cour européenne des droits de l'homme pour dire non bis. Je ne crois pas qu'ils. Enfin, je ne connais pas de précédent. Parce qu'on va justement dire que, en fait, la sanction sportive, c'est en quelque sorte contractuel. C'est toujours l'idée de ce type d'ordre juridique, en tout cas. C'est qu'à partir du moment où on y entre, on accepte les règles, etc. On est affilié à la fédération, donc on accepte tous les règlements. C'est comme les amendes de joueurs qui arrivent en retard à l'entraînement, enfin professionnel, ou pas d'ailleurs, mais... Bon, ben voilà, on va dire que c'est pas une amende au sens du droit pénal étatique, c'est une sanction du jeu, tout comme si... vous jouez au Monopoly et que vous allez en prison, voilà, c'est parce que vous y jouez que vous êtes, voyez. Donc c'est quand même différent, c'est des mécanismes différents, c'est des lectures différentes de mal fait par des prismes différents, avec des juges différents.
C'était très riche et donc j'en ai beaucoup, donc voilà, je vais essayer de ne pas être trop loin, puis je vous demande de seulement apporter une réponse à chacun. Mais je voudrais modestement compléter votre exposé en parlant d'une autre appellation que vous avez citée, qui est celle du référé. En football, on parle beaucoup encore du référé, je ne sais pas si c'est le cas dans d'autres sports. Et je trouve ça intéressant parce que dans le langage judiciaire, le référé, en tout cas en Belgique, en Norvège, implique une décision rapide. Et ce qui est, à mon avis, le cas des juges sportifs. Par ailleurs, c'est aussi intéressant parce qu'il y a un reportage, donc je ne vous donnerai pas d'argent, parce qu'il y a un reportage qui a été produit par la FIFA et réalisé par deux réalisateurs belges à partir de la Coupe du Monde 2010, je pense, si ma mémoire est bonne.
Non. Championnat d'Europe.
Championnat d'Europe 2008, exactement. Bah voilà, vous l'avez vu, ça s'appelle The Referee, et je pense que le titre de travail était Kill the Referee, oui. Parce que ça portait notamment sur un article qui avait été menacé de mort à la suite de Pologne-Allemagne, ici maintenant en Pologne. Et on a la FIFA, je trouvais que c'était un petit peu violent, parce que The Referee. Et il y a des enregistrements d'oreillettes, c'est exceptionnel. Et enfin, à la fois, c'est effectivement pas très surprenant ce que l'on entend, mais c'est complètement fascinant. Et moi-même qui joue au football, je ne vois plus du tout les arbitres de la même façon depuis que. J'ai vu ce reportage, quand bien même les oreillettes ne sont pas généralisées à tous les niveaux.
On entend quoi ? Pardon, moi j'ai pas vu le reportage. On entend quoi ?
On entend les enregistrements des oreillettes de match. Donc on voit des matchs et puis on entend les arbitres qui parlent tout le temps et puis on entend les joueurs qui interagissent.
Ah oui, d'accord.
Et puis on entend en plus plusieurs langues puisqu'on est en championnat d'Europe. Et voilà.
Ils ne parlent pas tous autant, mais ça va de « t'as vu celui-là, il a fait ci, il faut être super vigilant sur celui-là » à « fais attention, à 10 km, il y a un orage ». Il y a l'autre qui dit « mais la ferme, il reste 3 minutes, il ne faut pas que je fasse 2 boulettes ». Mais les exemples qu'ils avaient pris là dans le documentaire, ils sont géniaux, mais ils parlaient beaucoup. Et ce n'est pas toujours autant de discours, mais c'est un peu de tout. Des fois, ils parlent de tout et de rien. C'est assez impressionnant.
Et il y avait notamment l'importance des chaussettes dans ce dans ces exemples justement, puisque pour distinguer qui touche le ballon à Didier, l'exemple de Didier, qui fait la faute, qui ne touche pas le ballon, qui fait la faute, mais il y a l'exemple de Chouette. Ce qui m'amène à un deuxième commentaire, c'est le juge arbitre, mais aussi peut-être le juge législateur. Donc pour moi, je ne connais pas grand-chose dans ce que j'ai cité, je ne connais même pas la procédure en matière de FIFA ou UEFA. Donc je ne sais pas dans quelle mesure les arbitres sont associés à l'élaboration des règles sportives. Ça, c'est une question qui m'interroge. Dans la mesure où je pense qu'il y a toute une série de règles que les arbitres, avec lesquelles les arbitres au football ne sont pas à l'aise, et puis il y en a d'autres avec lesquelles ils sont plus ou moins à l'aise. Autrement dit, leur pouvoir d'interprétation, il n'est pas toujours, me semble-t-il, également apprécié de la part des juges. Et je prends l'exemple des chaussettes parce que c'est flagrant dans le règlement du football. Tout l'habillage est extraordinairement réglementé, donc la couleur des chaussettes, la couleur des bandes adhésives qu'on met autour des chaussettes, etc. Et je peux comprendre, après avoir vu ce reportage, pour l'importance des chaussettes, etc. Par contre, les chaussures ne sont absolument pas réglementées, ou très peu, mis à part la taille des crampons, c'est tout à fait marginal. Et là, bon, mais ça s'explique essentiellement pour des motifs de marketing, c'est-à-dire pour laisser aux équipementiers le droit de fournir des chaussures bicolores lors de la dernière Coupe du Monde. Et donc, bon. Voilà. Il y a un autre exemple aussi qui a été évoqué par Olivier Corten, c'est la célébration des buts. Systématiquement, maintenant la règle, je pense, est entre guillemets claire. Dès qu'on enlève son maillot à l'occasion de but, on reçoit une carte jaune. La ratio legis de la FIFA, c'est d'éviter des messages politiques qui s'inscrivent sur les t-shirts. Libérer Sarah Occidentale, par exemple. Donc, voilà. Et ça, c'est des règles qui sont vraiment complètement, je dirais, un petit peu éloigné du terrain. Et à l'inverse, il y a d'autres règles. Vous parlez de la direction du jeu et du match. Les interactions avec le public, vous avez évoqué ça au tout début de votre exposé pour bien montrer que l'arbitrage était une passion, voire un métier, mais surtout une passion très difficile. Dans le football, c'est vraiment compliqué parce que les possibilités de suspension, voire même de terminaison du match, en raison de comportement du public, c'est là que la géométrie est vraiment particulièrement variable. Et en songe au champ raciste, en France, il y avait une banderole qui a fait polémique lors de la finale de la Coupe de France en 2007, je pense, qui aurait peut-être pu justifier l'intervention de la police. Ça aussi, c'est quand même la gestion du public est aussi une donnée qui est assez importante dans le jeu. Il y avait enfin le retour à la vidéo. Mais ça, c'est intéressant parce qu'en Belgique, on a juste modifié la règle cette année dans le championnat belge. Donc, par ailleurs, il y a des règles nationales et des règles internationales. On a très bien compris comment se partager les compétences. Mais considérez jusqu'à cette année que si l'arbitre avait sifflé quelque chose, on ne pouvait pas revenir sur la phase vidéo parce qu'il y avait déjà eu une sanction. Et donc, on siffle un tacle particulièrement dangereux qui va blesser un joueur pendant 6 mois. L'arbitre a sifflé faute, mais il n'y a pas eu de carte jaune, il n'y a pas eu de carte rouge. Terminé, le jugement est définitif. Depuis cette année, même lorsque l'arbitre a sifflé, donc pas seulement quand il n'a pas sifflé, donc il n'a pas vu, même quand l'arbitre a sifflé, on peut faire un review vidéo. Ce qui quand même alors me semble alimenter la nuance sur la vérité historique de l'instant du match, puisqu'on permet, on ouvre la porte à une sorte de révision. Et enfin, dernier point. Excuse-moi. Vous avez dit qu'on ne voyait que la décision. Et ça, c'est. Oui, je peux vous suivre, mais j'étais fasciné par le fait d'assister à certains matchs de football américain. Notamment avec deux personnes qui regardent le football américain depuis plus de 20 ans. Et ce qui me fascinait, c'est que chaque fois qu'il y avait une intervention arbitrale, mes camarades étaient dans l'incapacité quasi systématique de me dire pourquoi l'arbitre s'est fait. D'une part, parce que les règles sont très compliquées. Ça, peu importe. Et ce qui était fascinant dans la retransmission télévisée du truc, c'est qu'au moment donné, on voit tous les arbitres se réunir et délibérer. Et alors, le public n'entend pas, mais les caméras et les prises de son par les caméras font qu'on entend une partie de la délibération des arbitres, qui est une délibération collective. Et qu'à l'issue de cette délibération, l'arbitre en chef vient au centre du terrain et prend la parole au micro, et cette fois-ci tout le public écoute, et il explique sa décision. C'est quand même une mise en scène de l'arbitrage qui, en tout cas pour un Européen fan de football, est complètement flippante. Donc on voit parfois, il y a peut-être une mise en scène de la délibération qui peut être aussi liée à des contingences de spectacle. Enfin, dernier point, mais là je ne répondrai pas, mais je vous avoue que la différence entre l'approche socio-cognitive ou cognitive-sociale, évidemment, elle m'est passée au-dessus de la tête, et donc si vous aviez juste un exemple, peut-être à partir de vos recherches, pour vous montrer, pour comprendre bien la différence entre les deux, ça peut être constructif. Merci beaucoup, en tout cas, c'était vraiment fascinant.
Je vais juste revenir sur quelques points. Les arbitres en football n'ont aucun pouvoir sur les règles. C'est pas l'arbitrage, ce sont les règles du football. C'est le board. C'est Grande-Bretagne, Écosse, Irlande, comme ça, qui a la main dessus. Je vous conseille, je vous l'enverrai, si vous pouvez m'envoyer un mail, donner vos coordonnées. Dans très peu de temps, il y a une excellente un numéro spécial dans la revue Movement and Sports Sciences. Édité par un très très grand chercheur canet, c'est moi. on vient de finaliser et il y a toute une partie historique sur l'évolution des règles dans le football et l'influence que ça a eu sur l'arbitrage en football, fait par des collègues de la Sorbonne. Si vous me donnez vos coordonnées, je vous l'envoie. J'attends, ils ont encore jusqu'à demain pour m'envoyer la version finale. Donc c'est vraiment excellent, c'est tout l'historique et à quel point en fait les arbitres n'ont aucun pouvoir sur le jeu. Même leurs expériences, on les écoute, mais c'est vraiment des gens dans une tour tout en haut et ils sont très très peu à décider de quoi que ce soit. Après il y a un terme qui je suis pas sûr qu'il ait été abordé, mais c'est la notion de spectacle. Vous en parliez avec le football américain, la délibération collective, voilà, c'est scénarisé, le gros plan en plongée comme ça sur l'arbitre qui parle et tout, c'est vraiment bien fait. Le basket a une orientation un peu là-dessus, en demandant à ses arbitres de faire du spectacle. Et on l'a vu avec l'étude dont je parlais tout à l'heure de Kendall Too aux États-Unis, le spectacle plutôt dans le sens où avoir un dernier carton avec beaucoup de suspense. Donc, du coup, ça, c'est la différence entre la direction et l'orientation. C'est la notion de spectacle. Essayer que le match soit le plus attractif, soit le plus intéressant possible. Comment on peut le mettre en place dans les pratiques sportives, ça dépend vraiment des pratiques. Ça dépend de la manière dont. Enfin, surtout des gens qui décident de la manière dont on va se faire l'arbitrage. En ce moment, en France pour le basket, c'est tourner vers ça, c'est vers le spectacle, c'est faire le spectacle, échanger avec le public. Donc on a vu des arbitres demander au public de faire du bruit. C'est extrêmement risqué, parce que ça me semble bien risqué. Communiquer avec le public, tout à l'heure vous parliez de l'étude. En fait, c'est Alan Neville, c'est un chercheur anglais qui a travaillé là-dessus. Et du coup, pour ajouter un petit peu, le public a une influence, mais en fait, on se sert dans des situations ambiguës, complexes, comme d'un indice. On s'en sert comme d'un indice. Et donc, c'est très difficile de rester le plus objectif possible et de ne pas tenir compte de ces 60 000 personnes qui hurlent au scandale. Et donc, comme vous le disiez tout à l'heure, j'ai pas vu la faute. Mais il y a 60 000 personnes qui l'ont peut-être vue. Donc, si je la siffle pas, ça pose problème. Par contre, évidemment, le public est loin d'être objectif et très, très supporter de son club, et c'est extrêmement compliqué. Mais on sait aujourd'hui que les arbitres participent à ce qu'on appelle le home advantage, à l'avantage du jeu à domicile. Je viens de soumettre un papier qui remet au cœur de l'avantage du jeu à domicile dans les sports collectifs. L'avantage du jeu à domicile, c'est le fait que les équipes en sport collectif gagnent plus de points ou ont plus de victoires à domicile, chez soi, à la maison, qu'à l'extérieur. Les arbitres participent à ça pour quatre raisons différentes. Là encore, je pourrais vous envoyer le papier, il n'y a aucun problème, c'est très intéressant. Mais cette notion de spectacle, elle est fondamentale aujourd'hui. Est-ce que l'arbitre doit participer au spectacle sportif? Est-ce qu'on doit le voir? Les fédérations aujourd'hui sont plutôt contre. J'en parlais là, tout à l'heure avant de descendre. J'ai eu l'occasion de voir un match de Coupe d'Europe, de Championnat d'Europe avec Garcia Aranda, qui est le méga superviseur du football, de l'arbitrage européen. Et on a vu un match nul. Alors nul parce que ça fait 0-0, nul parce qu'il n'y avait rien. Il n'y a aucun contact, vraiment rien d'intéressant. Et donc, quand lui s'est levé, il a dit ça, c'était un super match. Parce que justement, l'arbitre n'a pas pu faire d'erreur. Il ne s'est pas mis en danger. Par contre, il n'y avait pas de spectacle du tout. Mais pour lui, c'était le meilleur match possible. Et donc, lui, cet arbitre est passé au deuxième tour. Mais il n'avait rien à arbitrer, quoi. Le bon arbitre, c'est celui qui, justement, dans des situations extrêmement compliquées, va à peu près bien s'en sortir. Quant à un projet d'étude, enfin, pas un projet, développer un peu plus, je pense que je vais vous envoyer un papier que j'ai là sous le coude, qui reprend avec cette approche de la cognition sociale, qui est toujours de mon collègue Henning Plessner, à l'université d'Adelberg, qui reprend étape par étape tous les biais, toutes les études qui ont été faites. C'est une revue de littérature qui est vraiment excellemment faite et qui a 4 ou 5 ans, mais vraiment très complète. Donc ça, je vous l'enverrai, c'est, vous aurez toutes les questions. Si cette approche, ce paradigme vous intéresse, c'est vraiment très complet.
Je vous remercie, on est au bout d'arrêter, mais on aurait sans doute ici à toi.